Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. L'Occident au grand complet hier à Bruxelles pour un triple sommet OTAN, G7, Union européenne, Américains et Européens unis face à Vladimir Poutine qui connaît des difficultés sur le terrain militaire. L'Info C'est clair est intitulé « Guerre en Ukraine, l'Occident fait bloc ». Nos invités, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Je précise que vous avez vécu plusieurs années en Russie. Étienne Lénart, vous êtes responsable du service de politique étrangère de France Télévisions. Bonjour. Bonjour Dimitri Minik, vous êtes docteur en histoire des relations internationales, chercheur au centre Russie, nouveaux états indépendants de l'IFRI. Et je cite votre article sur le site de l'IFRI, « Invasion russe de l'Ukraine, une rupture politico-stratégique ». Et enfin, en direct depuis Washington, avec le décalage horaire, on retrouve et on remercie Sonia Dridi. Vous êtes correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias, dont France 24. Et je cite votre livre, hein, Joe Biden, c'est aux éditions du Rocher. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, marathon diplomatique hier à Bruxelles pour les dirigeants occidentaux qui tentent de montrer leur unité face à Vladimir Poutine. Qu'est-il sorti de ce triple sommet ? Élément de réponse avec Lorraine Barrière.
Une séquence diplomatique jamais vue auparavant. Un mois jour pour jour après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, une trentaine de dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, affichent un front commun face à Vladimir Poutine.
L'OTAN n'a jamais été aussi uni qu'aujourd'hui.
Dans la matinée, les pays de l'OTAN se sont mis d'accord pour renforcer leur position sur le flanc est de l'Europe. Des équipements contre d'éventuelles attaques nucléaires et chimiques seront fournis. Dans ce cas précis, l'Alliance Atlantique promet une riposte. Mais pour le président ukrainien, c'est insuffisant. Volodymyr Zelensky demande une aide militaire sans restriction.
Nous n'avons pas encore de réponse claire. La pire chose pendant la guerre est de ne pas avoir de réponse claire aux demandes d'aide.
Les pays du G7 vont prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou. Washington demande même l'exclusion de la Russie du G20. Sur l'énergie, les Européens réfléchissent encore à plusieurs pistes pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes. Aujourd'hui, Joe Biden se rend en Pologne, près de la frontière ukrainienne, symbole de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou.
Étienne Lénart, c'était important et ça fait chaud au cœur de voir la famille occidentale comme ça réunie hier au grand complet à Bruxelles.
C'était sans doute important pour les Occidentaux eux-mêmes, hein, d'afficher ce message d'unité face au risque que présente ce qui se passe en Ukraine et face à Vladimir Poutine. C'est un sommet qui a été convoqué un peu en urgence par Joe Biden lui-même, hein, et on a donc réuni autour de lui tout ce que l'OTAN compte de pays concernés, une trentaine. Un sommet du G7 qui n'était pas prévu non plus. Aujourd'hui, cette réunion de l'Union européenne, donc ce pack, j'ai envie de dire, pour utiliser une métaphore sportive, ce pack occidental pour montrer la détermination de l'Occident à Vladimir Poutine et en même temps, quand même, d'un côté une unité, mais peu de solutions annoncées au risque que présente cette guerre en Ukraine. Donc un espèce de bilan quand même mitigé, malgré les déclarations de bonnes intentions. On sent bien que il y a des divisions qui pointent sur l'accès à l'énergie notamment, et puis sur le recours à quelle force en cas d'attaque chimique ou biologique ou nucléaire. J'imagine que c'est de tout cela
dont on va parler pendant l'émission. Sonia Dridi d'abord. En Europe, évidemment, dans nos journaux, l'Ukraine, on ne parle que de ça depuis un mois. Je peux vous dire, Sonia, c'est l'ouverture de tous les journaux depuis le 24 février. Aux États-Unis, est-ce que ce conflit a la même couverture? Est-ce que les Américains d'abord savent où est l'Ukraine?
Alors, je pense que ça dépend si vous demandez à un Américain à Washington ou dans un des États du Midwest. Mais oui, en général, les Américains se sentent quand même très concernés par ce conflit. Ici aussi, les chaînes d'information télévisées qui d'habitude parlent très peu de l'étranger, beaucoup moins qu'en France, par exemple, eh bien là, l'actualité, c'est l'Ukraine, les images que l'on voit à la télé, c'est cette invasion russe en Ukraine. Les télés maintenant ne parlent que de ça également. C'est vrai que ce conflit parle beaucoup aux Américains, tout d'abord parce que la relation avec Moscou est tendue depuis des années, à part il y a eu la parenthèse Trump, mais sinon toutes les administrations américaines ces dernières années ont une relation plutôt tendue avec Vladimir Poutine, et puis surtout les images terribles de civils sous les bombes ont touché beaucoup d'Américains. On le voit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout dans le pays, hein, les Américains se sentent vraiment concernés. Et d'ailleurs, selon un sondage qui est paru hier, près de environ 56% des Américains pensent que Joe Biden devrait être plus dur à l'égard de Vladimir Poutine. Les Américains sont toujours en grande majorité réfractaires depuis des années à intervenir à l'étranger, mais ils n'aiment pas se sentir impuissants.
Dimitri Minnick, on voit l'Occident fait bloc. On s'est retrouvés hier tous ensemble à Bruxelles. C'est l'Opinion hier qui titrait, le journal L'Opinion, face à la Russie, l'Occident uni, mais seul. Ce que j'allais dire, c'est que cette réunion hier qu'on a vue à Bruxelles, on va revoir les photos, ça faisait très 20e siècle. Il n'y avait pas ce qu'on appelait au 20e siècle les PVD, les pays en voie de développement. Comment le reste du monde voit-il ce conflit ?
L'Occident c'est uni dans l'adversité, et souvent dans l'adversité, et encore plus souvent face à la Russie, et à l'époque face à l'Union soviétique. Et, ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que la Russie son intervention en Ukraine a eu des effets tout à fait contraires à ceux qu'elle aurait voulu. Elle est beaucoup plus isolée qu'avant, elle est massivement sanctionnée, et vous parliez des pays en voie de développement, elle est très peu soutenue.
Maintenant, on dit pays émergents. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le Sénégal, l'Inde, voté contre, ils se sont abstenus. C'est quand même service minimum.
Non, mais ceux qui n'ont pas approuvé les sanctions, ce sont quatre pays, soit d'accord, des pays quasiment vassalisés comme la Biélorussie, ou vassalisés comme la Syrie, ou des pays, des États faillis ou dictatoriaux comme l'Érythrée et la Corée du Nord. Et le Venezuela aurait pu rentrer dans cette catégorie, seulement il me semble qu'il n'a pas pu voter. Mais donc du coup, effectivement, en revanche, on voit une abstention de l'Inde, effectivement du Sénégal, ouais, de l'Afrique. Et ça, c'est aussi une...
Ça n'inquiète pas les Européens, ils disent « Oh, bah, ils sont de mauvaise humeur ». Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, comment dire, que ce soit un peu le club blanc, old school, très 20e siècle, qui dit « Mais non, c'est encore nous les chefs, quoi ». Et dans le reste du monde, on se dit « Mais bah, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir ».
Non, disons que l'hégémonie occidentale n'est plus la même au XXIe siècle qu'elle l'était au XXe siècle. Mais là, ce qu'on peut observer, c'est que la Russie a quand même, par une sorte de positionnement assez équilibré entre l'Ouest et l'Est, a réussi à maintenir une forme d'influence en Asie, même si, on le voit, elle est très peu soutenue. Même la Chine la soutient assez peu, en réalité.
Et Elsa Vidal, comment voit-on dans ce conflit en Ukraine? Comment est-il analysé dans les anciennes républiques soviétiques, dans ce que les Russes appellent leur zone d'influence? Là aussi, on est en quoi? On est du côté du grand frère de russe, ou on est du côté des victimes ukrainiennes?
Là aussi, la crise rebat fortement les cartes, à notre propre surprise, puisqu'on a vu des pays qu'on considérait appartenir à l'étranger proche et à la zone d'influence traditionnelle et non pas naturelle de la Russie prendre leur distance. Et donc, il y a eu quand même des déclarations extrêmement surprenantes d'un pays qui a été aussi longtemps vassalisé, qui était l'Ouzbékistan, qui a déclaré qu'il respectait absolument la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Au Kazakhstan, là où la Russie, en janvier, avait envoyé des troupes pour rétablir l'ordre face à un événement qu'on n'est pas encore très sûr de pouvoir qualifier. Au Kazakhstan, il y a eu des déclarations extrêmement sibyllines, disant notamment que le Kazakhstan ne reconnaîtrait pas l'indépendance des républiques du Donbass qui cherchent le rapprochement avec la Russie, interdisant ou autorisant d'une semaine sur l'autre des manifestations contre la guerre. Et puis, on voit aussi qu'au Bélarus, les populations, à défaut de leurs autorités, sont extrêmement opposées à une entrée en guerre aux côtés de la Russie, puisque même parmi les ressortissants qui soutiennent le régime de Loukachenko, seulement 3% dans un sondage de Chatham House qui est sorti hier, sont prêts à soutenir une intervention aux côtés de la Russie.
Étienne Hénard, dans cette indignation mondiale contre la guerre de Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut mettre des bémols? Est-ce que dans certains pays, ils disent « écoutez, ça, c'est pas notre affaire » et puis après tout, les Américains se sont comportés pareil, ils ont fait une guerre illégitime en Irak, de leur point de vue, hein, je parle.
Oui, mais c'est un argument qui est audible je dirais, cet argument de l'Irak. Après tout, les Américains n'avaient aucun mandat pour aller se battre en Irak d'aucune organisation internationale. Ils y sont allés, il y a eu des milliers de morts. Et il n'y a pas eu de sanctions économiques. Donc
dans beaucoup de pays,
ça n'enlève rien à l'agressivité de l'opération militaire russe en Ukraine. Mais c'est un argument qui est audible. Et vous avez tout un tas de pays. Vous citiez l'Inde, la Chine, des pays qu'on dirait non alignés, qui considèrent aussi pour leurs intérêts propres, dans leurs relations avec la Russie, qu'ils n'ont pas à rentrer dans cette affaire. Cette réunion de l'OTAN, bon, c'est une organisation historique, constituée. Donc il y a les pays de l'OTAN. On pourrait mettre un bémol sur la position de la Turquie, par exemple, qui est dans l'OTAN, mais qui a une relation avec la Russie qui est particulière, donc qui est peut-être moins encline à critiquer la Russie. Mais j'ai envie de dire que les pays jouent leurs cartes. Vous voyez les Émirats arabes unis, par exemple, être très soft avec la Russie, mais parce qu'ils ont des intérêts économiques, ou les oligarques russes ont des intérêts économiques majeurs dans les Émirats. Et donc, eh bien, on garde sa position et ses intérêts. Après tout, on peut entendre ces pays-là, même si tout ce qui se passe en Ukraine est absolument scandaleux.
Mais cette indignation, voilà, elle est très occidentale, elle est très dans le camp Europe-États-Unis, elle est moins forte dans le reste du monde.
Oui, clairement, mais c'est aussi un problème géographique. Hein, quand vous voyez où se passe cette guerre, quand vous voyez le revirement de la position allemande, on est à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Allemagne. Donc forcément, certains pays se sentent beaucoup plus concernés que d'autres.
Sonia Adridi, donc le président Joe Biden est en Europe. Comment les Américains, d'ailleurs, jugent-ils son action ? On sait qu'il avait été critiqué pour le retrait un peu chaotique, même chaotique, de l'Afghanistan. Comment les Américains la voient-ils, ce retour un peu contraint et forcé de la diplomatie américaine en Europe, sur le théâtre de la guerre en Europe ?
Oui, alors c'est vrai que certains disent que finalement Joe Biden a une chance de rédemption en quelque sorte avec cette affaire ukrainienne, parce qu'il a été très critiqué avec le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, même si la responsabilité portait aussi sur le Pentagone, sur le département d'État. Il y a eu beaucoup de désorganisation. Il a chuté dans les sondages aux États-Unis après ce retrait d'Afghanistan, et aujourd'hui on sent quand même qu'il y a un momentum, qu'il regagne. Alors, il est toujours assez bas dans les sondages. Hein. Il a environ à 40% de popularité, ce qui est assez bas en ce moment. Mais il est vu comme, en quelque sorte, l'homme de la situation. C'est vrai que beaucoup le disent, ils ont du mal à imaginer qui d'autre que lui aurait pu gérer une telle crise. Dans les candidats qu'il y avait à l'élection de 2020, Joe Biden, c'est quelqu'un qui connaît très bien Vladimir Poutine depuis des décennies. D'ailleurs, à l'époque où George W. Bush disait que chanter les louanges de Vladimir Poutine en 2001, déjà Joe Biden disait qu'il ne faisait pas confiance à cet homme. Joe Biden qui se vante aussi de lui avoir dit lors d'un déplacement à Moscou, je vous regarde dans les yeux et je vois que vous n'avez pas d'âme. C'est quelqu'un qui connaît très bien Vladimir Poutine, qui, lorsqu'il était déjà dans l'administration Obama, lors de la crise en 2014-2015 avec l'annexion de la Crimée puis du Donbass, eh bien, Joe Biden avait déjà fait du lobby auprès d'Obama pour envoyer des armes à l'Ukraine, et c'est Obama qui avait dit non. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier ukrainien. Et puis finalement, les observateurs ici ont trouvé sa stratégie plutôt bonne. Il n'a pas pu paraître au tout début assez effacé, peut-être d'un point de vue même européen. Lorsque Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte ses capacités nucléaires, Joe Biden était dans le Delaware, c'était un dimanche, il n'a fait aucune intervention. Beaucoup se demandaient s'il allait prendre la parole, il pouvait paraître un peu effacé, mais en fait c'est une stratégie pour la désescalade. Joe Biden le dit et le répète, il ne veut pas rentrer dans une troisième guerre mondiale, et je pense que pour les Américains, sa position est plutôt rassurante, même si encore une fois, comme je le disais au début d'émission, avec ce sondage qui montre qu'une majorité d'Américains pensent qu'il devrait être plus dur avec Vladimir Poutine, beaucoup d'élus, que ce soit des républicains ou des démocrates, le poussent à faire plus. Par exemple, certains soutenaient l'envoi de ces MiG-29 polonais à l'Ukraine, sans aller jusqu'à la mise en place d'une no-fly zone, d'une zone d'exclusion aérienne. Beaucoup d'Américains demandent qu'ils fassent plus.
Sonia Adridi, vous disiez qui d'autre que Joe Biden pour gérer cette guerre en Ukraine. Vous parliez de sa position rassurante. Est-ce que certains commentateurs s'amusent à imaginer ce qui se serait passé si on avait eu Donald Trump à la Maison-Blanche ? Est-ce qu'on a une idée des choses, comment ça serait passé, quoi ?
Alors c'est vrai qu'il y avait un article notamment de The Atlantic Council le commentateur disait qu'il était plutôt rassuré que ce soit Joe Biden et pas Donald Trump. Donald Trump qui, je vous rappelle quand même, au début de la crise a loué finalement la position de Vladimir Poutine en disant que c'était intelligent de sa part de reconnaître l'indépendance donc des régions séparatistes russes. Il a même qualifié Poutine de génie stratégique. Mais on voit Donald Trump qui, beaucoup le disent ici, hein, c'était un fan de Vladimir Poutine lorsqu'il était à la tête des États-Unis, s'est fait manipuler par Vladimir Poutine. Ses proches conseillers racontent aujourd'hui, beaucoup ont écrit des livres, il y a Fiona Hill notamment, qui est une spécialiste des États-Unis, qui dit que Vladimir Poutine, pour l'un des sommets internationaux pendant lesquels il avait rencontré Donald Trump, avait embauché une traductrice très jolie pour perturber Donald Trump. Il aurait pu se faire facilement manipulé par Vladimir Poutine. Et évidemment, on imagine qu'il n'aurait pas rassemblé l'Europe derrière lui, qu'il n'y aurait peut-être pas eu cette unité qu'on voit aujourd'hui si c'était Donald Trump à la tête du pays.
En attendant, hier, donc, Américains et Européens étaient réunis à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN. Reste cette question, que feront ces pays unis au sein de l'OTAN si Vladimir Poutine franchit les fameuses lignes rouges? Et quelles sont-elles, ces lignes rouges? On parle d'attaques chimiques. En attendant, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir recours à ce qu'on appelle des bombes au phosphore. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont exactement ces bombes au phosphore? Sujet de Lionel Feuerstein.
Comme un feu d'artifice dans la nuit d'Irpin, à quelques kilomètres de Kiev. Des traînées blanches, incandescentes, qui tombent lentement vers le sol. Ces images, filmé avant-hier par un journaliste anglais, serait, selon plusieurs experts, le signe de bombe au phosphore blanc. La même scène a été photographiée de cette fenêtre et publiée sur les réseaux sociaux par le maire d'Irpin, que nous venons de joindre.
Grâce à Dieu, les bombes sont tombées à 300-400 mètres de nos positions. Ils ont manqué leur cible. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts avec le phosphore.
Les armes au phosphore ne sont pas interdites. Mais leur usage en milieu urbain contre des civils pourrait être assimilé à des crimes de guerre. D'autres villes, comme Popasna, Izium et Rubizhne, auraient également été touchées ces derniers jours. Selon cet expert, le Kremlin avait déjà utilisé cette arme en Tchétchénie.
Le phosphore brûle à une température extrêmement élevée, jusqu'à 1300 degrés, et donc peut provoquer évidemment des incendies, mais des brûlures extrêmement graves et mortelles sur les populations civiles exposées. Et donc elles ont un caractère de terrorisation évidemment très marqué.
Ces bombes ont été largement utilisées dans des conflits dans le passé, comme en Irak ou à Gaza. En Ukraine, des enquêtes ont été ouvertes pour recueillir des preuves. Seule l'analyse de résidus pourra déterminer avec certitude la nature de ces munitions. La Russie, de son côté, nie toute implication.
Dimitri Minnick, c'est Joe Biden qui nous prévient le risque d'une utilisation à grande échelle d'armes chimiques par la Russie sur le territoire de l'Ukraine est bien réel. Est-ce que dans la stratégie de Vladimir Poutine, il peut monter en puissance dans l'horreur des outils?
Alors, l'utilisation d'armes chimiques et d'armes bactériologiques, elle a été théorisée par l'armée russe, dans la littérature militaire russe, mais dans d'autres armées également. Toutefois, on a bien vu que la Russie ne s'arrêtait pas, avait encore d'autres options avant de monter en intensité et d'utiliser des armes chimiques, puisqu'elle a utilisé effectivement probablement ces bombes au phosphore, elle a utilisé au phosphore blanc, elle a utilisé probablement aussi, c'est même beaucoup plus documenté d'ailleurs, des roquettes thermobariques qu'elle avait déjà utilisées à Grozny, qu'elle avait déjà utilisé en Syrie et qui a une puissance, ces roquettes ont une puissance absolument destructrice. Elles provoquent un effet d'explosion, de surpression et de dépression. Et donc la Russie, c'est, si vous voulez, ne s'arrêtera pas tant que, au fond, tant qu'elle n'aura pas accompli son objectif prioritaire sur le champ de bataille en Ukraine, qui est probablement, et pour l'instant, depuis des semaines, c'est ce qu'on observe, de prendre en tenaille le gros de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Voilà, c'est une manière de gagner la guerre, ouais. De manière décisive, en fait.
Elsa Vidal, du temps, quand l'URSS avait envahi l'Afghanistan, dites-moi si je me trompe, mais on ne parlait pas, j'ai aucun souvenir, qu'on parlait de recours à l'arme nucléaire, comme l'a fait Vladimir Poutine au bout de 2-3 jours. On ne parlait pas d'armes chimiques. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine, au fond, il est moins contrôlable, plus imprévisible, plus menaçant que ne l'était l'URSS de Brejnev?
Eh bien, tout d'abord, je pense que ça fait partie d'une stratégie, de la stratégie de la guerre psychologique, précisément, que de nous impressionner par le caractère absolutiste et ultra-déterminé et menaçant de l'exécutif russe. Est-il ou n'est-il pas rationnel? En ce moment, personne n'est en capacité de le savoir parce que personne n'a accès au cercle rapproché de Vladimir Poutine. On peut se baser, on a des impressions. On voit que son état-major et les gens les plus proches, le cercle intime réduit au strict minimum, a l'air perturbé, serait en désaccord. Mais pour ce qui est du discours de Vladimir Poutine, il a d'abord pour effet de nous faire peur et de nous faire donc considérer toutes nos options. En soi, c'est un élément de la guerre.
Sonia Dridi, quand les Américains, qui sont quand même très bien informés, c'est eux qui nous avaient alertés sur l'imminence d'une invasion russe, que nous ne voulions pas croire en Europe, donc visiblement les renseignements américains sont très alertés. Quand Joe Biden nous met en garde contre la possible utilisation d'armes chimiques et contre une possible escalade qui serait incontrôlable, qu'est-ce qui les inquiète et qu'est-ce qui leur fait penser cela?
Oui, alors ils le disent, hein, Joe Biden en effet l'a dit, il y a des possibilités d'utilisation d'armes chimiques en Ukraine. Il faut savoir que très tôt hein, dans le conflit, les Américains ont mis en place un conseil spécial, ça s'appelle la Tiger Team, donc l'équipe tigre au sein du Conseil national de sécurité pour justement voir ce que les Américains et l'OTAN feraient en cas d'utilisation d'armes chimiques. C'est un conseil qui se retrouve 3 fois par semaine, donc c'est un sujet évidemment que les États-Unis prennent très au sérieux. Et comme vous l'avez dit, les Américains sont, pour l'instant, leurs services de renseignement se sont montrés plutôt très bons sur la crise. On parle beaucoup de l'Irak, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est une autre administration, c'est d'autres personnes.
Ils ont des contacts avec les militaires russes secrets, parce qu'on sait que du temps de la guerre froide, on se parlait à haut niveau. Là, est-ce qu'il y a encore des contacts entre entourage de Washington à Moscou?
Eh bien, en raison du conflit, en fait, il y a une ligne spéciale, ça s'appelle la Deconfliction Channel, un nouveau canal téléphonique qui a été mis en place entre les Moscou et Washington. Mais ce qu'on a appris du Washington Post hier ou avant-hier, c'est qu'il n'y a eu aucun contact entre les plus hauts chefs militaires russes et américains. Pourquoi? Les Américains disent que les Russes ne répondent pas au téléphone, ce qui peut être inquiétant vu la situation.
Oui, ça veut dire qu'ils ne se parlent pas. Donc, il y en a vite fait d'avoir un malentendu. Étienne Lénard, quand le même Joe Biden dit « si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra ».
Oui, c'est assez lapidaire hein, comme réponse. Et donc, ça met tout le monde devant la question qu'est-ce que l'on va faire. Et le président de la République a dit hier à Bruxelles « je ne parle pas de ligne rouge parce que je ne sais pas à quel moment la ligne rouge est franchie et je ne sais pas quelle sera ma réponse ». Donc, il a refusé de s'engager. Ah ouais. On rappelle toujours, hein, dans toutes les émissions, le précédent de Barack Obama en Syrie, qui avait refusé de répondre et qui, d'une certaine manière, avait manifesté un certain aveu de faiblesse face à ses opposants.
Et ça, Vladimir Poutine le sait?
Bien sûr.
Ils ne feront rien.
Vladimir Poutine le sait. Il en joue. On parlait de sentiments de peur. Voilà, on véhicule la peur en utilisant des armes hypersoniques, en utilisant ces bombes au phosphore.
68% des Français sont inquiets de la survenue d'une attaque nucléaire sur le sol français.
Mais bien sûr, et notre rôle est d'essayer aussi de les rassurer en se disant qu'utiliser l'arme nucléaire, même une arme tactique de faible rayon, ce serait quand même un symbole qui devrait entraîner l'OTAN à trouver une réaction d'une manière ou d'une autre. Mais hier, on a posé la question au secrétaire général de l'OTAN qui a dit « Pour l'instant, j'ai mis en alerte, il y a une force tactique au sein de l'OTAN qui est spécifiquement dédiée à la protection en cas d'attaque chimique pour protéger les populations, pour tester le taux de radioactivité. » Donc, on s'y prépare, mais on s'y prépare mollement parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Et vous disiez tout à l'heure, l'invasion, on ne voulait pas y croire en Europe. C'est un petit peu le même sentiment qu'on a en ce moment. C'est qu'on n'a pas envie d'y croire à cette utilisation parce que l'arme nucléaire fait peur à tout le monde. Mais il peut y avoir des armes nucléaires de très faible intensité. Simplement, le sentiment de peur qu'elle véhicule est absolument monstrueux, mais de très faible intensité, très localisé, et qui serait simplement une provocation politique de plus de la part de Vladimir Poutine, disant à l'Occident, vous voyez, je suis capable de tout, donc laissez-moi l'Ukraine, et je m'arrêterai quand j'aurai fini mon travail.
Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a l'utilisation de ces fameuses lignes rouges, armes chimiques ou armes nucléaires de basse intensité? Est-ce qu'on rentre dans l'escalade ou est-ce qu'il y a une sidération qui fait bah, stop, on arrête tout, on laisse tomber l'Ukraine? On n'ira pas, faire péter la planète, tant pis.
C'est la question essentielle. C'est la question essentielle à laquelle, pour l'instant, l'Occident refuse, par exemple, de mettre en place ce que le président ukrainien lui demande depuis le début de la crise, c'est-à-dire une zone aérienne de non-intervention qui empêche les avions russes de survoler l'Ukraine. Mais ce serait une opération de très, très grande envergure pour l'OTAN et effectivement un risque de conflit généralisé aux portes de l'Europe.
Dimitri Minik.
Oui, non, mais juste pour revenir sur les deux points, vous parliez d'irrationalité dans le cercle rapproché de
Vladimir Poutine. D'imprévisibilité.
Et d'imprévisibilité, tout à fait. Puis d'éventuelles dissensions en fait, entre les élites militaires et les élites politiques. Alors certes, elles peuvent exister, ces dissensions, sur la stratégie employée, sur l'idée que ce serait une erreur de calcul. Mais il faut bien aussi comprendre que, et ça, l'étude de la littérature militaire et politique russe des 30 dernières années le montre parfaitement, et puis elle est ancrée dans l'héritage soviétique. Toutes ces élites-là ont la même formation et surtout ont la même perception du monde et des relations internationales et de l'environnement stratégique. Une perception très hostile et qui, comment dire, les éloigne, a tendance à les éloigner d'une évaluation objective du rapport de force. Car contrairement à ce qu'on a souvent pensé, il faut relativiser le prétendu pragmatisme de Vladimir Poutine. On pourrait prendre toutes les actions, on pourrait même remonter à 2014. Les relatifs succès stratégiques de la Russie en 2014-2015 en Ukraine ont dissimulé l'irrationalité de cette décision. Parce qu'elle a été prise. Pourquoi Vladimir Poutine a annexé la Crimée et a manipulé le séparatisme dans le Donbass? Tout simplement parce qu'il pensait, sérieusement, comme toutes les élites politico-militaires, ouais, que le Maïdan était un coup d'État piloté par Washington pour chasser la Russie d'Ukraine.
Un dernier mot, Sonia Dridi, et ensuite on va vous laisser parce que je ne sais pas quelle heure il est à New York, mais ce n'est pas une heure à Washington. Est-ce que vous avez le sentiment que si ça devait mal tourner, Washington est prêt à envoyer les boys à Kiev?
Oui, je pense que... Washington ne veut pas intervenir, Joe Biden l'a dit répété, militairement, mais là, la Maison-Blanche laisse entendre que ça va dépendre s'il y a une attaque, de l'ampleur de l'attaque, de quel type d'attaque, si Moscou utilise des armes chimiques. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas exclure que les États-Unis puissent intervenir si jamais, en fonction de l'attaque. Et je pense qu'on parle beaucoup, c'est vrai, d'Obama, de la ligne rouge. Il faut savoir qu'Obama, quand même, voulait intervenir, mais il a été empêché par le Congrès. Il a écouté le Congrès. Il y a des gens de l'administration Biden, notamment Blinken, le secrétaire d'État, qui sont assez interventionnistes. Donc, il ne faut pas totalement exclure cette option, même si les Américains n'ont pas envie d'intervenir en Ukraine.
En tous les cas, si Vladimir Poutine se montre aussi menaçant, c'est peut-être parce que sur le terrain, son armée s'enlise. Selon des conversations non cryptées recueillies par les Ukrainiens, les soldats russes font face à des problèmes logistiques, des problèmes de fuel, des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture, le tout sur un territoire hostile avec une population très hostile. Voyez ce sujet de Claire Vérov.
L'attaque a été soudaine. C'est un navire militaire russe qui vient d'être touché dans le port de Berdyansk, aujourd'hui contrôlé par l'armée russe. Deux autres bateaux prennent le large. Il fuit l'incendie. Le navire Orsk était le premier vaisseau de combat russe entré dans le port. Il déchargeait de l'équipement militaire sur les côtes de la mer d'Azov. Il y a juste 3 jours, cet officier de la marine russe s'en félicitait.
L'arrivée de ce gros navire dans le port de Berdyansk est un événement majeur. Il ouvre des opportunités pour notre flotte.
Un revers de taille pour l'armée russe. Elle est aussi confrontée à des problèmes de logistique. Des failles révélées par des communications non cryptées, des conversations entre soldats russes interceptées par l'armée ukrainienne. Des demandes de fuel, d'eau, de nourriture, mais aussi de matériel militaire de base.
Он говорит, у меня, блядь, бронежилета нет. Сынок, крепись.
Сука, даже в Чечне в свое время такого не было.
Нас свой самолет авиабомбы скинул.
Des soldats russes en terrain ennemi, souvent livrés à eux-mêmes.
Donc réellement, ils ne peuvent pas reposer sur la population pour trouver à manger. Ils n'ont pas de tente même pour dormir. Ils ont jusqu'à la moitié de leurs bataillons qui sont détruits dans les combats. Les Russes n'ont simplement pas les renforts de leur côté. Et chaque jour qui passe, ils sont moins armés, moins nombreux et ils ont le moral qui s'effondre.
Selon Moscou, 498 soldats russes sont morts depuis le début de la guerre. Il serait plus de 15 000 selon l'armée ukrainienne.
Alors Étienne Lénard, comment qualifier le moment où nous sommes dans cette guerre? C'est ce matin Libération qui titre, alors ça y est, selon eux, on a atteint le point de bascule, ils titrent l'Ukraine à l'offensive.
Oui, nous sommes super prudents, Axel, sur ce que nous mettons à l'antenne, parce que je pense qu'il y a de la communication des deux côtés et qu'on essaye d'observer sur le terrain exactement ce qui se passe dans toutes les villes autour de Kiev. Nous avions une équipe de reportage qui est allée hier dans une ville qui s'appelle Makariv. On ne savait pas si Makariv avait été effectivement reprise par l'armée ukrainienne ou elle était toujours aux mains des Russes. On s'est rendu compte en y arrivant qu'elle avait effectivement été reprise par l'armée ukrainienne. Je rentre dans ces détails-là pour vous expliquer qu'on fait très attention parce que ça ne fait que 4 semaines que cette opération militaire a été lancée. C'est assez court finalement, 4 semaines. On s'attend à ce que l'opération dure plusieurs mois. Les Russes ont la maîtrise du ciel, ils gardent la maîtrise du ciel, donc ils vont continuer à bombarder. Et ils n'ont pas une opinion publique qui va leur dire arrêtez de bombarder, c'est terrible, parce que ça n'est pas organisé comme ça en Russie. Donc Vladimir Poutine, pour l'instant, il a les mains libres sur ce plan-là. Ce qui est certain, c'est qu'au sol, il ne contrôle pas le terrain, il ne contrôle pas les civils qui sont sur le terrain. On l'a vu dans des villes que l'armée russe a prises, comme des villes comme Kherson, où aujourd'hui encore, plusieurs semaines après, la population continue à manifester contre la présence de l'armée russe au cœur de la ville. Donc il a cette difficulté-là, ce sera de tenir le terrain une fois qu'il l'a conquis. Mais est-ce que l'on doit pour autant dire aujourd'hui que l'armée russe a perdu cette bataille d'Ukraine? Franchement, je m'en garderai parce que je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Dimitri Milik?
Oui, en fait, je pense qu'il y a eu deux phases dans cette opération russe. La première, c'est une tentative de guerre éclair sur Kiev pour changer le régime. Donc des forces venant du nord de Biélorussie et du nord-est et de l'est venant de Russie. Mais cette offensive, pour plein de raisons, elle a échoué. L'idée était d'appliquer la guerre de nouvelle génération théorisée par Vladimir Sypchenko, qui était un général russe et qui s'était inspiré des opérations militaires américaines dans les années 90 et 2000, notamment de la guerre en Irak, la fameuse doctrine du choc et de l'effroi. Mais ils l'ont raté, en fait, hein, cette première phase, parce qu'ils ont probablement trop sous-estimé l'Ukraine. Normalement, ils auraient dû faire précéder l'entrée des troupes russes par une phase de bombardement beaucoup plus intense et beaucoup plus longue. Alors que non, hein, finalement, les forces terrestres ont vite suivi. Ils n'ont pas eu la maîtrise du ciel et ils ne l'ont toujours pas aujourd'hui. C'est un gros problème.
En tout cas, ils n'ont pas d'opposition dans le ciel.
Ils ont quand même des systèmes de défense antiaérien ukrainiens qui continuent à fonctionner et qui sont
avec
assez mobiles.
Avec des missiles antiaériens qu'on leur fournit.
Les Stingers, les fameux Stingers qu'on leur fournit, d'où l'importance d'ailleurs des fournitures occidentales en matériel. Là, le temps clairement joue contre l'armée ukrainienne. Et la deuxième phase, qui a commencé il y a quelques semaines, c'est plutôt... C'est ce qu'on observe hein, quand on superpose les cartes. C'est plutôt de prendre à revers le gros de l'armée ukrainienne. Parce qu'il y a deux manières de gagner la guerre en Ukraine pour les Russes. Soit de prendre Kiev et d'assiéger la ville, ce qui sera très coûteux et très long.
Ouais.
Soit de tronçonner l'armée ukrainienne. Et la plus importante partie est dans le Donbass. Donc leur but, c'est d'éliminer cette partie de l'armée ukrainienne pour négocier le plus vite possible, pour obtenir un accord le plus vite possible. Mais effectivement, des gros problèmes de logistique et une sous-estimation dès le début du conflit qui transforme ce conflit-là...
En guerre d'usure.
Alors, en guerre d'usure, mais en réalité, oui, et en même temps, non. C'est-à-dire qu'à Kiev, il y a une volonté d'entourer la ville. À Kharkov, par exemple, ce n'est pas Mariupol. Ce qu'on voit à Kharkov, ce n'est pas ce qui se passe à Mariupol. À Kharkov, on a de l'artillerie qui fixe les unités ukrainiennes dans la ville, mais on voit que... même autour de Mykolaïev, les unités russes veulent monter pour essayer vraiment de contourner. L'objectif n'est pas forcément de prendre et de tenir la ville. Vous voyez
Elsa Vidal, en tous les cas, ce qu'a montré ce reportage, c'est que c'est compliqué pour l'armée russe, c'est compliqué pour les soldats russes. Il y a une question de morale des troupes. On voit qu'ils se parlent avec des communications non sécurisées. Est-ce que l'armée russe n'est pas en train d'exposer aux yeux du monde sa faiblesse? Comment se fait-il que la deuxième armée du monde n'arrive pas à venir à bout d'un petit pays, pardon, à l'image de la Russie, de 40 millions d'habitants exsangues. Est-ce que ça, on dit que Vladimir Poutine, il est inébranlable à Moscou. Est-ce que ça, quand même, cette fragilité exposée au monde des difficultés de l'armée russe, est-ce que ça peut faire tanguer dans toute la hiérarchie russe, toute la hiérarchie militaire, et venir à menacer Vladimir Poutine? Est-ce que l'armée russe peut y avoir une révolution de palais qui serait initiée par certains généraux russes qui se diraient « mais c'est pas possible, où est-ce que ce Vladimir nous a embarqués ?»
C'est possible, mais c'est surtout quelque chose sur quoi on compte beaucoup à l'étranger et dans l'opposition russe. C'est quelque chose sur quoi on a spéculé en ce qui concerne le chef d'état-major Gerasimov, qui aurait été opposé à cette opération, mais qui n'aurait pas remis sa démission pour éviter qu'un autre ne prenne sa place et ne sacrifie trop les boys russes, enfin les patsans. Mais... Ce qu'on voit surtout, je pense, quand on entend ces communications, etc., c'est que le gros de la troupe russe est formé du bas de la pyramide sociale russe, c'est-à-dire des jeunes hommes qui viennent
de régions... Vous les comprenez, hein, vous les avez compris.
Oui, on les comprenait, François, à ma gauche, très bien. Voilà. Et ils expriment un grand désarroi. Il faut dire que leur désarroi en tant que tel, en tant que membre des couches sociales les plus pauvres et les moins valorisées en Russie, leur désarroi, je pense, compte très peu, en tout cas pour Vladimir Poutine.
En tous les cas, 10 000 morts en un mois. Je crois que l'Afghanistan, ça a fait 15 000 morts en une dizaine d'années. Hein. Il ne tiendra pas longtemps à ce rythme-là, Vladimir Poutine, non ? Parce que les fameuses mères, les comités de mères, hier dans Le Monde, il y avait ce témoignage. Mon fils est mort, je ne comprends pas ce qu'il est allé. Pourquoi on l'a envoyé là-bas ?
Oui, on commence à avoir beaucoup de cérémonies d'obsèques. Ouais. Alors, les obsèques, c'est toujours un peu particulier parce que c'est aussi des cérémonies à la gloire de la patrie. Donc il y a toute une partie quand même de l'opinion publique en Russie qui continue à soutenir cette opération. Il ne faut pas non plus avoir imaginé que... Sûr. Et puis il y a toute la propagande du régime qui fait que quand vous regardez la télévision russe, vous n'avez pas forcément conscience que l'opération est très difficile. Et les Ukrainiens, qui sont très forts aussi en communication, utilisent des logiciels de reconnaissance faciale. Ils prennent des photos des soldats russes qui sont tués et ils les mettent sur les réseaux sociaux en Russie pour que les familles soient informées de... Donc on est dans une guerre aussi de communication très intense pour voir comment est-ce que l'opinion publique finira par basculer. On l'avait vu effectivement sur l'Afghanistan où les maires s'étaient révoltés au bout d'un moment. 15 000 morts, c'était considérable. Si on est à 10 000, parce qu'on n'a pas le chiffre exact, si on est déjà à 10 000 morts et à 3 fois ou 4 fois plus de blessés dans l'armée russe, c'est clair que ça va finir par poser un problème à Vladimir Poutine.
Dimitri Mini.
Oui, non, il y a aussi, je pense qu'il faut faire très attention avec les chiffres des morts qui sont diffusés.
Alors là, on les cite, ces chiffres, parce qu'ils viendraient du Kremlin, qui les aura, enfin d'un organe proche du Kremlin qui les a mis en ligne avant de les retirer immédiatement. Donc c'est pour ça que ça accrédite.
Oui, effectivement. Après, bon, certains analystes indépendants parlent plutôt de 3 à 4 000 morts côté russe, ce qui reste considérable, mais. Mais pas dans cet ordre d'idées. Et puis pareil sur le matériel. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait beaucoup plus choqué Vladimir Poutine, ce qui en dit long sur sa mentalité, c'est la perte de matériel russe plutôt que d'hommes en Ukraine. Ça, ouais. Mais là encore, il ne faut pas non plus... vous voyez, les chiffres ukrainiens sont très surestimés. On pense plutôt qu'ils ont perdu entre 3 et 4 % de leur potentiel aérien mis dans la balance en Ukraine. Et entre 8 et 10% de leur autre potentiel, blindé et tout, mis dans la balance.
Il y a cette idée, les militaires parlent de point culminant, que l'armée russe aurait atteint son point culminant. Au fond, là, elle serait un petit peu à son maximum, au-delà duquel on n'y arrive plus parce qu'on est essoufflé.
Le problème, c'est les ressources humaines. Parce que la ressource en matériel, elle les a, la Russie. Le problème, ça va être les ressources en hommes et en hommes formés.
Oui, en homme formé, parce que d'abord, on nous a très doctement expliqué qu'il n'y avait pas de conscrits qui seraient envoyés. Or, il y a des conscrits qui sont envoyés. On a fait appel à des volontaires au sein de la population russe qu'on ne devra pas payer, des gens qui n'auraient pas d'intérêt pécuniaire. Et par ailleurs, on assiste aussi à des révoltes au sein de différents corps militaires ou policiers russes. Il y a quand même des membres de la garde nationale qui ont refusé de partir puisque leur mandat ne prévoit pas leur intervention de l'autre côté de la frontière russe. C'est un corps d'élite très respecté en Russie qui doit garder la frontière et ils ont refusé, ce sont des officiers, de partir. Il y a quand même des dissensions et on va avoir du mal à avoir de bons officiers sur place, ce qui expose aussi la population ukrainienne à des débordements.
Et les officiers sont visés en plus.
Alors, en attendant, l'Occident fait bloc avec des sanctions commerciales qui commencent à avoir des effets en Russie. Je vous propose de regarder ce court extrait d'un sujet de Benjamin Delombre qui montre des magasins en Russie avec des rayons à moitié vides, comme du temps de l'URSS. On regarde.
J'ai connu.
Ce sont des images que les Russes n'avaient plus vues depuis le début de la pandémie de Covid-19. Dans ce supermarché de Moscou, l'heure n'est pas à la pénurie, mais il y a des rayons vides. Le sucre, la farine manquent. Les moscovites font des provisions.
Je voulais prendre un kilo de sucre, au moins un kilo. Je pense que les gens paniquent et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. C'est vraiment pas une bonne chose.
Un peu plus de 3 semaines après les premières sanctions occidentales, l'économie russe n'est pas à terre, mais elle vacille.
Alors Étienne Lénard, on dit souvent que les sanctions, elles sont inefficaces parce qu'elles soudent le peuple. Est-ce que là, en l'occurrence, elles seraient tellement massives qu'elles auraient quand même un effet?
Oui, en fait, elles sont visibles pour l'opinion publique russe quand forcément les rayons se vident, quand les usines, par exemple l'usine Renault ferme, ça concerne les Russes puisqu'ils ont des employés dans ces usines-là. Donc il y a cet élément-là. Mais sur cette histoire des sanctions, il y a quand même un truc central, c'est l'énergie. Et tant qu'on n'aura pas résolu le fait que l'Union européenne et l'Occident donnent l'équivalent de 600 millions d'euros
par jour
à la Russie.
En achat d'hydrocarbures,
de gaz, etc. On n'aura pas résolu le problème. Parce que les sanctions sur le plan alimentaire, effectivement, elles sont choquantes pour la population, mais ce n'est quand même pas l'essentiel du problème.
Elsa Vidal, est-ce que les sanctions peuvent avoir un effet ou est-ce que le patriotisme russe prendra le devant et au contraire, tous unis contre ces Occidentaux qui veulent nous faire de la peine en nous retirant leur yaourt et leur iPhone?
C'est un gros risque. C'est un calcul qu'il est encore très difficile d'anticiper dans son résultat. C'est ce que disait aussi Pavel Chinsky quand il expliquait pourquoi il était fondé pour des entreprises, notamment comme Danone, Bonduel, Auchan, de rester en Russie. Parce qu'il disait qu'autrement, ça allait frapper la classe moyenne russe, qui est celle qui était le plus en recherche de stabilité, mais qui était assez peu sensible aux arguments occidentaux et qu'elle pourrait aussi faire corps derrière le régime. Sachant que le régime a déjà bien préparé la population à un mythe guerrier. Dans ce mythe guerrier, ce qu'on exalte chez les Russes, c'est leur capacité à faire face aux épreuves dans une certaine frugalité par rapport à un Occident décadent. Le problème, c'est que la population russe qui va être le plus impactée par cette guerre, c'est pas celle qui a la plus le voix au chapitre, accès ou l'habitude de consulter les médias étrangers, ni celle qui va quitter la Russie. Du coup, on risque de se retrouver avec une population russe devenue beaucoup plus homogène, celle qui ne pourra pas quitter et qui n'aura pas accès à des médias alternatifs et qui pourrait tout à fait considérer, et peut-être à bon droit, qu'on lui fait payer une politique qu'elle n'a jamais soutenue.
Dimitri Minik, c'est vrai que je faisais la référence à l'URSS, mais après tout, le peuple russe a supporté pendant 70 ans les privations du régime communiste. Bon, on ne voit pas pourquoi il se soulèverait davantage aujourd'hui contre les privations infligées par Vladimir Poutine.
Oui, mais en fait, le problème de la Russie, et ça ne date pas de Vladimir Poutine, c'est l'État a traditionnellement et progressivement voulu absorber la société. Des grands historiens de la Russie l'ont démontré, comme Alain Besançon. Et au fond, on observe ce trait caractéristique qui s'hérite d'élite en élite russe. Et un de ces traits caractéristiques, c'est quand même le fait que la population russe vit dans une forme de bulle informationnelle qui est alimentée par les fantasmes et les théories fausses des élites politico-militaires et qui trouve en plus un terrain assez fertile dans la population russe et notamment celle dont parlait Elsa. Et donc les sanctions économiques, si vous voulez, c'est effectivement très important. Elles sont massives, mais l'objectif fondamental des sanctions, ça aurait dû être, en tout cas, de modifier l'orientation politico-stratégique de Moscou. Ce qui n'a pas été le cas, parce que le contenu des sanctions n'a pas été divulgué avant l'invasion. C'est un problème. C'est-à-dire que Vladimir Poutine avait su que, en cas d'agression armée, les avoirs de la Banque centrale allaient être gelés, autant d'entreprises d'elles-mêmes allaient quitter finalement le pays, peut-être qu'il n'aurait pas agi ainsi. Autrement.
Elsa Vidal, est-ce que le peuple russe est fataliste et finalement il ne faut... Vladimir Poutine n'a rien à craindre de ce côté-là?
C'est la représentation qu'on en a historiquement, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a toujours eu des mouvements sociaux, même pendant l'Union soviétique. On l'ignore généralement, mais il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de gens qui ont pris des risques énormes, parce que la répression ou la punition, quand elle s'exprime à plein. Ça concernait toujours une minorité. Aujourd'hui, il y a des dynamiques démographiques qui sont un peu différentes. Il y a des gens qui prennent des risques, mais la répression qui a été mise en place commence à rappeler des systèmes de punition collective très, très massifs, avec des prises de risques qui vont jusqu'à 15 ans de prison, des prisons où, en général, vous êtes torturé. Donc, les Russes sont enclins à peut-être avoir des réflexes habituels, qui est de vivre en dépit et en marge de l'État. Et on compte, avec nos sanctions, initier une réaction qui serait une réaction de populations aspirant à la démocratie. Est-ce que ce sera possible? Je pense que le temps est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte comme un facteur déterminant. On analyse toutes ces opérations depuis un mois. Un mois, c'est encore assez peu. Je pense que nous-mêmes, du côté occidental, on ne sait pas vraiment quel effet durable nos sanctions vont produire. Le chômage va s'installer. La prise en charge sociale est extrêmement limitée en Russie. Donc, il va falloir, sur les mois qui viennent, peut-être jusqu'en septembre, vraiment apprécier la déstabilisation de la société.
D'autant que les mesures de rétorsion prises par la Russie auront aussi un impact chez nous. Donc, c'est aussi une guerre qui se joue à ce niveau-là.
Impact chez nous, c'est toutes les entreprises françaises qui sont plus ou moins sommées et qui, à leur corps parfois défendant, sont obligées de se retirer de ce marché de la Russie où elles avaient beaucoup investi. Dernière en date, Renault, qui annonce suspendre en tous les cas l'activité dans son usine de Moscou. Sujet de Marie Justet et Olivier Gardette.
Plus aucune activité. À Moscou, l'usine Renault est désormais à l'arrêt. Ce matin, ce représentant du groupe nous le confirme.
L'usine, maintenant, ne marche pas. D'accord. Et la production des voitures est arrêtée.
Avec le conflit en Ukraine et face à la pression, Renault suspend donc ses activités. 80 000 voitures sont assemblées ici chaque année par les 2 000 salariés de l'usine, dont beaucoup sont résignés. La production tournait au ralenti ces dernières semaines.
La fermeture était planifiée. L'usine ne travaille plus depuis le 28 février.
Le constructeur français possède 3 sites de production dans le pays. Une usine Renault à Moscou qui a donc fermé. 2 autres à l'est de la capitale avec sa filiale russe Avtovaz, dont l'avenir est en suspens. Si Renault a décidé d'arrêter son activité à Moscou, le groupe devrait continuer de payer les salariés de son usine russe.
Étienne Lénard, toutes ces entreprises russes, toutes ces entreprises européennes qui ont énormément investi en Russie et qui maintenant ont les sommes de partir, le patron de Total disait, moi si je m'en vais, Vladimir Poutine il récupère tout derrière. Larry Fink, le patron de BlackRock, disait hier dans Les Échos, enfin c'était Les Échos qui rapportait ça, l'invasion russe a mis fin à la mondialisation que nous avons connue depuis les 3 décennies. C'est vrai que les multinationales, on les reprendrait peut-être pas 2 fois là d'investir dans des pays autoritaires. Oui, ils peuvent tout perdre.
Clairement, il y a eu une première lame qui était la crise sanitaire avec le Covid, qui avait déjà encouragé un certain nombre de pays à décider de relocaliser la production dans des pays, entre guillemets, plus proches, pour pouvoir contrôler mieux les choses. Et cette affaire de l'Ukraine, notamment si elle dure, va engager les entreprises à relocaliser. Les Américains le disent déjà. En Europe, on commence à se poser la question de savoir si, et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, il faut que nous retrouvions une forme d'autonomie pour pouvoir produire nous-mêmes, nous développer nous-mêmes et ne plus compter sur des pays avec lesquels nous pouvons, par exemple, la Russie rentrer en conflit et donc nous ne contrôlons plus rien. C'est vrai pour le commerce, c'est vrai aussi beaucoup pour l'énergie, évidemment. Ce sont ces deux pôles-là qui peuvent entraîner une forme de démondialisation.
Et Angela Merkel, on se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur en se mettant dans la main des Russes pour son énergie. Et c'est, au fond... C'est une césure.
Dans Stream 2 qui est suspendu avant même d'ailleurs sa mise en.
Il allait ouvrir.
Il est suspendu. C'est une illustration parfaite de ces paris qui ont été faits et qui aujourd'hui sont des paris perdants.
Avec cette idée que quand on fait du commerce, on ne se fait pas la guerre, que le commerce adoucit les mœurs, c'était un leurre.
Oui, et la question peut se poser également avec l'Asie, dans quelques années, avec la Chine, de la même façon.
Non. Si demain la Chine envahit Taïwan, Joe Biden nous interdira de faire du commerce ou à nos multinationales de faire du commerce.
Exactement, et nous serons obligés de rapatrier ou de créer nous-mêmes nos usines de semi-conducteurs.
Et de médicaments.
Donc c'est une date finalement à mettre en parallèle avec la chute du mur de Berlin qui avait ouvert la mondialisation. Elle se referme ?
Tout à fait. Et c'est pour ça que depuis le début de cette crise, et d'ailleurs les leaders européens le disent et le répètent, on est dans un changement géopolitique, dans un bouleversement géopolitique majeur. Et on n'a pas fini d'en voir les effets, clairement.
Dimitri Minik, je crois que vous vouliez revenir sur une possible réaction du peuple russe qui va subir de nouvelles privations, qui a découvert le McDo en 1990, chute du mur de Berlin. Et là, il vient de refermer le McDo, fin d'une époque. Allez hop, on retourne à la vodka et...
les réformes de Gorbatchev ont ouvert des espaces de liberté en Russie. Il faut quand même considérer que c'est l'opération soviétique en Afghanistan qui a discrédité et probablement beaucoup
l'armée russe,
mais aussi le Politburo. et mis fin, a contribué largement à mettre fin à la dictature du Parti communiste en Union soviétique.
C'est la déroute de l'armée russe en Afghanistan qui a provoqué en partie la chute de l'URSS.
En partie, elle y a beaucoup contribué. Donc
Vladimir Poutine joue son avenir dans cette guerre.
Ça n'est pas improbable, surtout qu'il y a énormément de points communs, si vous voulez, entre les deux invasions, notamment dans la prise de décision. Il y a vraiment des points communs qui ont trait à la culture stratégique russe et qui se reproduisent. Et ensuite, pour revenir sur l'approvisionnement en énergie en Europe, l'Europe avait déjà, depuis longtemps, voulu diversifier son approvisionnement énergétique, notamment passant des contrats avec l'Azerbaïdjan pour exploiter le pétrole et le gaz de la Caspienne. Ça avait échoué, le South Stream à l'époque, le gazoduc russe était un concurrent de ce projet. Ça avait échoué et effectivement, l'Allemagne s'est jetée à corps perdu dans l'approvisionnement russe avec le Nord Stream 2.
Elsa Vidal.
Oui, je voulais rajouter qu'on voit effectivement la fin d'une époque, la fin de l'époque libérale, de la tentative libérale de la Russie. Et j'en veux pour preuve un peu symbolique le départ du premier homme vraiment très haut placé, Anatoly Tchoubaïs, qui avait été le père des réformes libérales et celui qui a fait rentrer Vladimir Poutine au Kremlin.
Et c'était un proche du pouvoir. Il a pris ses valises, il a quitté son pays. Et bye bye, on ne peut plus rien faire.
C'est fini.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Vous restez sur France Info. On se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Et vous restez sur France Info. Bon week-end, à lundi.